Je vais donc parler de ce qui est le rôle du pneumologue, en tout cas en France, dans la prise en charge du cancer du poumon avancé. Si on regarde le cancer du poumon depuis le début, où est-ce que peut jouer le pneumologue? Eh bien, il peut jouer dans la prévention et notamment dans l'aide au sevrage tabagique. Il peut discuter avec les autorités pour prévenir la pollution de l'air atmosphérique et également avec les médecins du travail. Il participe au screening des cancers du poumon qui se fait de plus en plus. Il établit le diagnostic et il fait l'évaluation pré-thérapeutique. Dans certains cas, il fait le traitement et il peut et doit s'occuper des complications pleuropulmonaires du traitement. Vous connaissez bien sûr les différents procédés pour obtenir le diagnostic d'un cancer du poumon. En rouge, ce qui est fait par le pneumologue. En bleu, ce qui est prescrit par le pneumologue, mais qui est fait par d'autres spécialistes. Bien sûr, la bronchofibroscopie avec biopsie, lavage, brossage est faite par le pneumologue. En revanche, quand la tumeur est périphérique, c'est bien sûr le radiologue qui ira faire une ponction biopsie transthoracique sous scanner. Mais le pneumologue peut également faire une biopsie d'un ganglion médiastinal où il erre avec l'écho-endoscopie, ou il peut faire appel au gastro-entérologue pour faire une écho-endoscopie œsophagienne qui permettra d'atteindre les ganglions, notamment 8 et 9. Il peut faire une biopsie susclaviculaire et une biopsie d'un site métastatique. Il y a des techniques relativement avancées pour la bronchoscopie. Je ne vais pas trop insister, si ce n'est sur ce dont on se sert tous les jours, à savoir l'écho-endoscopie bronchique avec la biopsie ganglionnaire. Vous voyez là l'aiguille dans le ganglion. Mais on a maintenant également l'écho-endoscopie radiaire qui permet de faire la biopsie d'un nodule très périphérique si on n'a pas forcément un radiologue sous la main pour le faire. En ce qui concerne le N, c'est bien sûr le rôle de l'écho-endoscopie, de la médiastinoscopie. Alors vous voyez qu'il y a certaines aires ganglionnaires qu'on peut atteindre par les deux techniques, par exemple la 7 et la 4. Et puis qui sont le rôle de la médiastinoscopie préférentiellement à l'écho-endoscopie bronchique. Donc tout cela, en tout cas en France, est fait par le pneumologue. La comparaison entre la médiastinoscopie et l'écho-endoscopie bronchique, bien sûr, c'est ce qu'on appelle la learning curve est importante. Plus on fait de l'écho-endoscopie et plus on a de résultats positifs. Et finalement, il n'y a pas de différence d'intérêt entre la médiastinoscopie et l'écho-endoscopie bronchique. Si on prend les recommandations récentes de la Société européenne de chirurgie thoracique, vous voyez que même les chirurgiens donnent une place importante à les bûches. Lorsque vous avez une tumeur qui fait moins de 3 cm et où il n'y a pas de ganglion apparent, si au PET scan il n'y a pas de fixation, vous pouvez aller directement à la chirurgie. Lorsque la tumeur fait plus de 3 cm ou qu'elle est centrale, on fait quand même, même si on ne voit pas de ganglions médiastinaux, une écho-endoscopie bronchique pour tenter de prélever un ganglion. Si c'est négatif, on va à la chirurgie. Et si on voit des ganglions au scanner thoracique, on fait une biopsie de confirmation par l'écho-endoscopie, surtout si c'est positif au PET scan, et c'est négatif, on va jusqu'à la médiastinoscopie, vous voyez, qui intervient dans un deuxième temps. Donc le pneumologue, toujours en rouge, il participe au bilan d'extension loco-régionale par l'examen clinique qui va détecter éventuellement des ganglions cisclaviculaires par l'écho-endoscopie bronchique et bien sûr au diagnostic de l'extension à distance, toujours par l'examen clinique qui permettra de trouver par exemple une métastase de la gencive où là il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'examens cliniques pour voir ces horribles métastases cutanées. Il est bien sûr le mieux placé pour faire une ponction pleurale s'il y a un épanchement pleural. Dans le bilan pré-thérapeutique, c'est le pneumologue ou éventuellement le physiologiste respiratoire, selon les endroits, qui fera les épreuves fonctionnelles respiratoires, l'étude du transfert du CO, la gazométrie artérielle et la VO2 max, tandis qu'il prescrira l'évaluation cardiovasculaire, la scintigraphie pulmonaire, éventuellement l'examen gériatrique qui sera fait par d'autres spécialistes. Au moment de la décision thérapeutique, cette dernière doit se faire dans le cadre de ce qu'on appelle en France une RCP ou bien une réunion multidisciplinaire à laquelle participent, outre les pneumologues, des chirurgiens thoraciques, des radiothérapeutes, des radiologistes, des pathologistes. Je n'ai pas mis l'oncologue médical parce que justement, ça va être très dépendant de savoir s'il y a des pneumologues compétents en cancérologie ou pas. Et bien sûr, il y a l'oncologue médical si dans l'équipe, il n'y a pas de pneumologue compétent en cancérologie. Et jusqu'à ce stade, il n'y a aucune discussion sur le rôle du pneumologue qui est reconnu par tous. Pour le traitement, il n'y a pas non plus de discussion pour la chirurgie qui doit être faite par des chirurgiens thoraciques qui sont qualifiés comme chirurgiens thoraciques et qui ont un volume d'activité suffisant. On ne fait bien que ce qu'on fait tous les jours et quelqu'un qui n'opère que 10 cancers du poumon par an ne peut pas avoir la même qualification que quelqu'un qui en opère 100 ou 150. Évidemment, l'irradiation sera faite par des radiothérapeutes. Il y a certains gestes qui sont faits par les radiologues interventionnels. Et puis, il peut y avoir besoin d'une endoscopie interventionnelle qui est souvent réalisée par les pneumologues, du moins en Europe. Cette endoscopie interventionnelle permettra de faire soit du laser, soit de la thérapie photodynamique, mais ça, c'est pas pour les formes avancées, de la cryothérapie ou de mettre en place des prothèses endobronchiques. Là où on arrive aux controverses, c'est pour le traitement systémique, que ce soit la chimiothérapie ou les thérapies ciblées, où il y a de grandes variations selon les pays. Alors, je vous ai mis en rouge les pays où la chimiothérapie était faite par les pneumologues, et en bleu lorsqu'elle est faite par les oncologues médicaux, et avec le rapport des tailles qui indique la proportion à peu près de ce qui est fait par les oncologues médicaux et les pneumologues. Vous voyez par exemple qu'en Espagne, toute la chimiothérapie est faite, à ma connaissance, hein, parce que les choses peuvent changer, par des oncologues médicaux. C'est la même chose au Royaume-Uni, c'est la même chose en Suisse. En Italie, elle est surtout faite par les oncologues médicaux, mais quand même aussi par les pneumologues. En Belgique et aux Pays-Bas, elle est surtout faite par les pneumologues. De même, en Allemagne, elle est faite par les pneumologues, mais aussi par les oncologues médicaux. En France, elle est surtout faite par les pneumologues. En Roumanie, elle est faite par les oncologues médicaux. Et bien sûr, je n'ai pas suffisamment de connaissances dans mes collègues d'autres régions d'Europe pour savoir si c'est différent. Par exemple, en Suède, en Norvège, en Pologne, j'avoue que je ne sais pas. Si on regarde aux États-Unis, eh bien au Canada, elle est faite à la fois par les oncologues médicaux, surtout dans la partie anglaise ou anglophone du Canada, par des pneumologues dans la partie francophone, mais aussi par des oncologues médicaux. Aux États-Unis, c'est fait pratiquement que par des oncologues médicaux, mais certains d'entre vous ont peut-être encore connu Jim Jett, qui a été le président de l'ISLC, récemment, ou plutôt l'éditeur en chef du Journal of Thoracic Oncology, et qui était l'exception aux États-Unis, puisque c'était le seul pneumologue qui faisait de la chimiothérapie. Si on va en Amérique du Sud, Rodrigo Arriagada m'a certifié qu'au Chili, il n'y avait que les oncologues médicaux qui donnaient de la chimiothérapie. Lorsqu'on va en Asie, vous avez l'Inde, où c'est que des oncologues médicaux, la Russie également. En Chine, dans la région de Hong Kong, il y a à la fois des pneumologues, c'est des oncologues médicaux, avec Tony Mok, qui est le président de l'ISLC. Et si on vient au Liban, mais vous me direz si je me trompe, j'ai cru comprendre que c'était uniquement des oncologues médicaux qui faisaient la chimiothérapie. En Turquie, il y a à la fois des pneumologues et des oncologues médicaux. Donc vous voyez une très vaste variété selon les pays et selon les traditions, probablement. On y reviendra. Pendant le traitement et après le traitement, quel est le rôle du pneumologue? Eh bien, il va évaluer la réponse tumorale, éventuellement refaire une bronchoscopie. Ce qui actuellement n'est plus tellement fait pour évaluer la réponse tumorale parce que, à la limite, on aurait l'endoscopie virtuelle pour le faire et pas embêter les patients. Mais, comme l'a dit mon collègue précédemment, les thérapeutiques ciblées prennent une telle ampleur qu'on est souvent amené à rebiopsier un patient à la rechute pour disposer de nouveaux tissus tumoraux et pour faire d'autres recherches de mutations, d'autant que, comme il vous l'a dit, il en sort tous les jours. Le pneumologue est souvent le mieux placé pour s'occuper des complications thérapeutiques. Alors bien sûr, les pneumopathies post-radiques sont parfois tout à fait classiques, comme ici, avec dans les suites immédiates de l'irradiation, une image en verre dépoli qui déborde largement le champ d'irradiation. C'est le moment de mettre des corticoïdes si on veut éviter les ennuis. Si on attend un peu, ça prend la forme de condensation pulmonaire qui se met essentiellement dans le champ d'irradiation. Et puis, si les choses évoluent encore, il y a une condensation de plus en plus importante pour aboutir à la fibrose post-radique que vous connaissez bien, mais qui est devenue moins fréquente avec les techniques d'irradiation actuelles. Le problème le plus difficile en matière de suivi d'un patient qui a de la chimiothérapie ou des thérapies ciblées, c'est la maladie, les pneumopathies interstitielles diffuses, qui peuvent être soit préexistantes, soit qui peuvent survenir lors du traitement. Et c'est vraiment un problème difficile pour lequel le pneumologue est probablement le mieux placé. Si on regarde dans cette série d'effets secondaires mortels au cours de la chimiothérapie, eh bien, il y a des effets secondaires qui sont d'ordre respiratoire et non respiratoire. Si on prend les respiratoires, eh bien, il peut y avoir une maladie concomitante, il peut y avoir une toxicité qui n'est pas reliée à une pneumopathie interstitielle et une pneumopathie interstitielle éventuellement d'origine médicamenteuse. Par exemple, dans cette étude qui portait sur les complications pulmonaires induites par le gefitinib plus fréquemment, un petit peu plus fréquemment que par l'erlotinib, eh bien, il n'est pas toujours aisé de savoir s'il s'agit, lorsque vous avez une évolution comme ceci, est-ce que c'est une progression de la maladie? Est-ce que c'est une infection? Est-ce que c'est une insuffisance cardiaque? Ou bien est-ce que c'est une pneumopathie interstitielle diffuse spécifique du gefitinib? Là, le rôle du pneumologue est très important de par l'analyse qu'il va faire de la situation clinique radiologique, faire éventuellement un lavage alvéolaire. Je crois qu'il est quand même le mieux placé pour conclure. Là, c'est pareil, dans un article de Philippe Camus qui avait repris tous les dossiers de pneumopathie interstitielle diffuse attribués au gefitinib, Eh bien, vous voyez que dans les pneumopathies interstitielles diffuses qui étaient effectivement liées au gefitinib, il y a plusieurs présentations radiologiques possibles, selon qu'il s'agisse d'un dommage alvéolaire diffus, qu'il s'agisse d'une COP, qu'il s'agisse d'une pneumopathie à éosinophile, ou alors de cette image en vert dépoli où il n'y a pas de déformation bronchique. Il faut savoir que le fait d'avoir une pneumopathie interstitielle diffuse à la base est un facteur de risque pour le cancer bronchique. Donc, ce n'est pas une situation rare. Et là, vous voyez que dans cette analyse rétrospective des risques relatifs induits par le fait d'avoir une pneumopathie interstitielle diffuse, vous voyez que ça multiplie le risque de développer un cancer du poumon de façon importante. Donc, ça n'est pas anecdotique. Alors, voilà une image que vous connaissez bien de pneumopathie, de fibrose interstitielle diffuse, UIP, qui est donc la fibrose interstitielle diffuse usuelle. Est-ce que vous voyez quelque chose de plus? Eh bien, voilà un petit cancer dans le lobe inférieur gauche, qui peut-être pourrait échapper à la sagacité d'un pneumologue ou d'un radiologue si on ne regarde que la radio et si on ne fait pas de scanner. Lorsque on opère ces patients qui ont une pneumopathie interstitielle diffuse, dans certains cas, on peut observer une exacerbation de la pneumopathie interstitielle après chirurgie. C'est un tableau que les pneumologues doivent bien connaître. Et les facteurs prédictifs qui ont été étudiés pour savoir s'il y a un risque d'exacerbation après la chirurgie, c'est essentiellement la quantité de perfusion pendant l'acte chirurgical qui va jouer. Plus vous mettez vous perfusez du liquide, et c'est somme toute assez logique à des patients qui sont opérés d'un cancer du poumon, plus vous risquez d'avoir une exacerbation en post-opératoire de cette pneumopathie interstitielle diffuse. La CRP est également un facteur prédictif. La chimiothérapie peut induire une exacerbation d'une pneumopathie interstitielle diffuse. Est-ce que, si on n'est pas pneumologue, on prête attention à ces petites images sous-pleurales de pneumopathie interstitielle chez quelqu'un qui a par ailleurs un gros cancer du poumon? Je ne suis pas sûre. Et vous voyez l'évolution qui peut de cette exacerbation de pneumopathie interstitielle diffuse après chimiothérapie. Et vous avez ici les drogues. Vous avez plus d'incidence de complications de la chimiothérapie lorsqu'il y a une pneumopathie interstitielle diffuse préexistante, lorsqu'elle a un pattern d'UIP, que lorsqu'elle a un pattern différent de l'UIP. Et vous voyez ici la liste des drogues les plus souvent incriminées. La gemcitabine et les taxanes sont évidemment particulièrement bien placées. Lorsqu'on fait une analyse multivariée des facteurs de risque associés à une toxicité de la chimiothérapie avec exacerbation d'une pneumopathie interstitielle diffuse préalable, eh bien, il y a l'âge inférieur à 70 ans, le mauvais performance statistique et le fait d'avoir un pattern UIP. Le pemetrexède peut donner des pneumopathies interstitielles diffuses. C'est peut-être moins connu, c'est une publication très récente, comme vous le voyez. Et on a également une différence selon que la pneumopathie interstitielle diffuse préexistante est de type UIP ou de type non UIP. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que lorsqu'on analyse la survie sans progression des patients qui développent ou qui avaient une pneumopathie interstitielle diffuse qui va s'aggraver sous pemetrexède, il n'y a pas de différence entre ceux qui en ont une et ceux qui n'en ont pas. En revanche, ça joue sur la survie et c'est bien montré que lorsqu'on a une pneumopathie interstitielle diffuse, il y a un risque de mortalité accru. Le crizotinib est également une drogue qui peut induire une pneumopathie interstitielle diffuse. Voilà un patient un patient âgé qui a été traité pendant plusieurs années pour une PIMS, qui a un adénocarcinome, qui est traité par chimiothérapie par carbotaxol, puis radiothérapie. Et puis ensuite, il a du pemetrexède pendant 11 cycles. Et puis, on se rend compte qu'il a une translocation ALK. Et vous avez sur la première ligne les clichés avant traitement par crizotinib. Et sur la deuxième ligne, vous avez quelques jours après le début du crizotinib, vous voyez une condensation alvéolaire très importante, un pneumothorax qui n'est d'ailleurs pas signalé dans l'article, très curieusement, qui fait partie des complications du crizotinib, et un décès malgré l'arrêt rapide du crizotinib et le traitement corticoïde. C'est pareil, quand vous faites de la radiothérapie à un patient, regardez bien son cliché juste avant, et vous pouvez avoir quelques petits éléments qui ne vont pas effrayer forcément les oncologues, qui font penser à une pneumopathie interstitielle. Ils peuvent être un peu plus marqués ou encore s'accompagner de distorsions bronchiques, donc avec un score de gravité de plus en plus important. Et lorsqu'on fait l'analyse multivariée des complications de la radiothérapie chez les patients, eh bien on voit que le fait d'avoir à la base une pneumopathie interstitielle diffuse qui ne donnait pas de symptômes et qui était visible radiologiquement, eh bien c'est un facteur de survenue d'une complication à la radiothérapie. Donc voilà une illustration de ce que ça peut donner. Vous voyez au départ une tumeur qui est ici dans le lobe inférieur gauche et puis quelque chose qu'on pourrait qualifier de score 2 de pneumopathie interstitielle. On fait une irradiation avec des champs obliques et vous voyez le résultat en ce qui concerne une fibrose catastrophique post-radique qui a été mortelle dans le cas précis et donc il reprenait dans les trois cas la clinique de ces patients. Bon, je ne vais pas insister puisqu'on l'a déjà vu. Il y a d'autres maladies respiratoires très souvent associées au cancer du poumon.
Vous avez encore 2 minutes.
Qui vont avoir un impact très important sur le traitement du cancer du poumon, c'est la bronchite chronique, les bronchiectasies et la tuberculose. Ces trois maladies s'accompagnent d'une augmentation du risque d'un cancer du poumon et doivent être prises en compte puisqu'il peut y avoir des conséquences importantes. À la bronchite chronique, ça va être difficile de les opérer, mais ils vont faire plus de complications infectieuses. Et la tuberculose, il peut y avoir une reviviscence de la maladie. Et là encore, le pneumologue est le mieux placé pour analyser la situation. Donc je vais passer parce que le temps s'écoule avec le fait que la tuberculose est un facteur de risque bien connu de développement d'un cancer du poumon, que ce soit dans les pays dits occidentalisés et dans les pays non occidentalisés, et notamment pour l'adénocarcinome bronchique. Et comptent en commun toutes ces maladies qui favorisent la survenue d'un cancer du poumon. Elles sont presque toutes reliées au tabac. Elles s'accompagnent toutes d'une inflammation chronique qui augmente les effets d'une exposition à d'autres carcinogènes. Elles impactent le diagnostic. C'est difficile de faire le diagnostic d'un petit cancer bronchique au milieu d'une fibrose interstitielle diffuse. Et elles confèrent un mauvais pronostic. En conclusion, le pneumologue a des rôles très variés dans la prise en charge du cancer du poumon. Il va s'occuper d'évaluer les nodules détectés au screening. Il va faire l'endoscopie. Il va analyser l'extension de la maladie, s'occuper de la fonction pulmonaire avant traitement. Il va participer à la décision médicale. Il va faire l'endoscopie interventionnelle. Il va apprécier la réponse à la thérapie. Il peut s'occuper, dans certains pays, on l'a vu, de la chimiothérapie, et dans tous les cas, il va s'occuper des complications pleuropulmonaires des traitements. La plupart de ces rôles se font en collaboration avec d'autres spécialistes, les oncologues médicaux, les radiologues, les radiothérapies. Et il faut se rappeler qu'il n'y a pas lieu de faire un combat entre les différents spécialistes, mais qu'il faut combattre pour la vie de nos patients. Je vous remercie.